Bon midi, vous êtes sur les ondes de Boulevard 102.1 à Québec. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui à l'émission Stéphane Levasseur, qui est lieutenant détective à l'unité de la prévention des fraudes au service de police de la ville de Québec. Monsieur Levasseur, bonjour.
Bonjour.
C'est pas tous les jours qu'on a la chance d'avoir un lieutenant détective qui est attitré aux fraudes. Quand j'ai fait la demande d'entrevue à David, que les gens à Boulevard connaissent, David Poitras, qui est au service de police de la ville de Québec comme porte-parole, il m'a dit: Yann, t'as pas idée à quel point ces gens-là ont des horaires assez compliqués. Donc, merci beaucoup d'être avec nous en ce midi pour parler des fraudes. Vous avez choisi un domaine où vous savez que vous ne manquerez jamais de travail, je pense.
Effectivement, on ne manquera jamais de travail. Les dossiers rentrent tous les jours.
Ouais, ça peut ressembler à quoi les dossiers que vous avez en termes de nombre par année sur votre bureau?
Bien, chez nous, les dossiers qui sont signalés, il faut dire que c'est les dossiers que les gens vont porter plainte, qui vont signaler. Ça, c'est plus de 3000 dossiers qui vont rentrer chaque année pour le bureau de la fraude.
OK. Donc, ça, c'est pour le bureau de la fraude.
Mais uniquement.
Vous n'êtes pas le seul là-dedans.
Vous voulez dire...
Est-ce que vous êtes le seul enquêteur aux fraudes à la ville de Québec?
Non. Moi, mon bureau d'enquêteur, j'ai 12 enquêteurs qui sont attitrés aux fraudes, qui vont faire toutes sortes de fraudes dans les dossiers. Puis il y a des dossiers de fraudes qui vont être attitrés à d'autres enquêteurs de d'autres unités pour certaines raisons, mais principalement pour mon bureau avec 12 enquêteurs, c'est 3000 dossiers qui rentrent par année.
Donc 12 enquêteurs, 3000 dossiers. Est-ce que vous avez le temps de d'éplucher tous les dossiers?
Malheureusement, non. On peut pas tous les faire.
Ouais.
On doit aller choisir ceux qui ont une plus grande possibilité de réussite. Il y a des dossiers, malheureusement, que les fraudeurs se trouvent outre-mer, donc aucune possibilité, qu'il n'y a pas de possibilité d'enquête ou de possibilité d'entraide entre les pays. Donc, ces dossiers-là, ben, malheureusement, on peut pas aller plus loin. Puis il y a des dossiers, ben, malheureusement, que... on est limité avec une prescription au niveau du code criminel qui est d'un an. Donc, si je n'ai pas le temps de traduire la personne en dedans d'un an à la justice, bien, je dois refermer le dossier.
OK, d'accord. Je comprends très bien. Vous faites comment le tri dans toutes ces fraudes-là? Qu'est-ce qui fait en sorte que M. Levasseur dit « OK, ces dossiers-là sont prioritaires. » Est-ce que c'est des dossiers peut-être plus pour les personnes âgées? C'est ce que j'avais cru voir sur vos pages Facebook.
Bien, oui, les personnes âgées, c'est sûr que les personnes vulnérables, les personnes âgées, c'est ouais. Une priorité au service de police. Donc, ces dossiers-là vont être traités rapidement parce qu'il faut penser que la personne vulnérable n'a pas la capacité de mettre des filets de sécurité autour d'elle. Donc, on a des enquêteurs qui sont habilités à faire ces démarches-là auprès des institutions bancaires, auprès des ressources sociales de la ville pour mettre des filets de sécurité auprès de ces personnes-là. Donc, ces dossiers-là, on va les travailler plus rapidement, effectivement.
La raison pour laquelle je vous reçois, M. Levasseur, c'est vraiment pour faire de l'éducation par rapport aux fraudes. Je veux dire, c'est la raison pour laquelle vous vous déplacez aussi, parce que vous ne vous déplacez pas pour rien. Les fraudes les plus populaires qui sont actives à Québec actuellement?
Actuellement, on a beaucoup les fraudes du petit-fils.
Ouais.
Donc, le petit-fils qui appelle sa grand-mère ou son grand-père pour dire... ça peut être la petite fille aussi, là. Je me suis fait arrêter par la police. Souvent, le scénario qu'on voit souvent, c'est j'ai frappé une femme enceinte. Je suis présentement arrêté par la police. Puis, je vais vous passer mon avocat. Mon avocat va vous va demander une caution. Ça, c'est une des fraudes qu'on voit régulièrement. On a la fraude également du faux représentant. Donc, le représentant d'une institution bancaire va vous appeler pour vous demander si vous avez été victime d'une fraude dans une autre ville que la vôtre, et il va vous demander votre numéro de carte de débit, votre NIP, et il va vous demander de mettre votre NIP et votre carte de débit dans une enveloppe pour quelqu'un va venir le récupérer. Par hasard, il y a un enquêteur qui passe dans le coin, il va ramasser votre enveloppe. Donc, c'est les fraudes régulières qu'on voit.
Ouais.
On a toujours les fraudes marketplace, les fraudes de Kijiji, les annonces, les fausses annonces.
Ça, vous voyez ça régulièrement?
Régulièrement. Quand on vient la saison de l'automne, c'est les cordes de bois. Quand on vient l'été, c'est les faux chalets, les annonces de faux chalets, les passes de l'affect. Donc,
vous les voyez passer à chaque année, vous?
Oui, ça, c'est des dossiers qu'on voit régulièrement
ouais.
Qui passent à chaque année.
OK. J'avais lu une entrevue dans la presse d'une dame qui s'était fait frauder, puis la vitesse d'exécution de ces fraudeurs-là était impressionnante. Et la dame, à la fin de l'entrevue, c'est un papier qui est paru dans la presse, dit « J'avais l'impression d'être dans un film ». Est-ce que c'est souvent ce que les victimes vous disent? Je savais qu'il se passait de quoi, mais il y avait tellement d'action que j'étais là, puis tu sais, à la limite, c'était pratiquement excitant.
Oui, bien, les fraudeurs, il faut dire que c'est des bons comédiens, c'est des bons manipulateurs. Donc, ils vont vous donner un sentiment d'urgence, ils vont répondre à toutes vos questions. Dès que, même si vous avez un doute, ils vont répondre à votre doute, ils vont pallier aux doutes que vous avez pour pouvoir continuer à faire leur fraude. On a vu du monde qui ont été tenus au téléphone pendant 1 heure, 2 heures avec le fraudeur pendant qu'il faisait qui parlait à la personne. La personne ne pouvait pas raccrocher. Donc, effectivement, c'est des bons manipulateurs, c'est des bons comédiens.
Qui sont ces fraudeurs-là? Est-ce que c'est des organisations structurées ou ça peut être des individus qui sont seuls, qui sont extrêmement machiavéliques et sont capables de faire toutes les étapes puis d'embarquer tout le monde dans leur patente?
On a les deux.
Ah oui.
On a des organisations, si on prend certaines fraudes, c'est des organisations criminelles qui sont à l'arrière de tout ça. Donc, c'est pas, ils ne visent pas une personne en particulier, ils font des appels, il y a des centres d'appels, puis ils vont commettre des fraudes. Donc, on a des organisations criminelles et on a également bon, le fraudeur type, là, la personne tout seul, dans son sol chez eux, qui va commettre des fraudes. Puis surtout avec la technologie aujourd'hui, bien, ça ouvre des portes puis des possibilités plus grandes que dans, il y a 20 ans.
Quand vous rencontrez ces individus-là, est-ce que vous avez l'impression que c'est des individus qui, normalement, on pourrait peut-être les identifier comme étant des tout-croches ou ça peut être le visage de monsieur et madame tout le monde, des gens bien habillés qui sont capables de se présenter puis à la limite vous faire douter qu'eux, ils n'ont jamais rien fait?
Non, bien, effectivement, les fraudeurs qu'on arrête, qu'on va arrêter, qu'on va interroger, on a, bon, des tout croches, comme vous dites, mais on a des personnes que c'est monsieur, madame, tout le monde, ça pourrait être mon voisin, ça peut être quelqu'un avec qui qu'on travaille. C'est des personnes qui paraissent très bien, qui l'image de soi est très importante, qui sont imbues d'eux-mêmes.
Ouais.
Effectivement, en interrogatoire, souvent, ils vont nous faire douter en disant, bien, non, t'as pas compris ce que t'as vu, je vais t'expliquer. Puis, ils vont nous camper dans une version qui est logique pour eux, mais qui n'est pas...
qui ne se tient pas.
Qui se tient pas là.
Okay. Puis vous, ben, à la limite, lorsque vous êtes en interrogatoire, vous devez être extrêmement attentif. Est-ce que ça arrive des fois que vous regardez encore les bandes vidéo des interrogatoires que vous faites pour dire « J'ai-tu raté quelque chose? Ah, tu vois, celle-là, ça me dit quelque chose. »
Ben oui, on est tous comme ça, les enquêteurs. On se remet en question tout le temps pour s'améliorer. Donc, le but, c'est de toujours s'améliorer puis trouver la meilleure façon pour aller chercher notre preuve.
OK. Pourquoi les gens hésitent à porter plainte?
La honte. Souvent, les gens nous le disent par après. Bien, c'était... Je le savais, je me faisais avoir, mais ils ont honte de porter plainte.
Mais est-ce qu'ils ont l'impression d'être seuls, M. Levasseur?
Bien, ils peuvent avoir l'impression, mais on n'est pas là. On est là pour les aider. Il faut que les gens comprennent, il faut qu'ils portent plainte, il faut qu'ils viennent, il faut qu'ils signalent. Si on veut arrêter ce phénomène-là, si on veut arrêter ces gens-là, mais il faut qu'ils portent plainte, il faut qu'ils viennent voir. Puis il n'y a pas de honte à porter plainte, puis il n'y a pas de honte de dire « je me suis fait avoir ». Parce qu'il y a même des polices qui sont victimes de fraude. Donc, tout le monde peut être victime de fraude. Il n'y a pas de classe sociale, il n'y a pas d'âge, il n'y a pas de sexe. Tout le monde peut être victime.
Est-ce que, dans certains cas, c'est possible de récupérer l'argent perdu pour les gens qui se plaignent au service de police de la Ville de Québec?
Il y a une possibilité, si on est capable. Mes enquêteurs vont toujours travailler dans le but de récupérer l'argent qui a été fraudé. Si on a une possibilité de le récupérer, on va le faire. Et il y a toujours, selon le code criminel, il y a 2 articles au code criminel, que le juge peut ordonner au suspect de rembourser les victimes.
Okay.
Il y a des règles déjà établies dans le code criminel. C'est pas une gage de garantie. C'est pas garanti que le juge va l'ordonner, mais c'est une demande que la couronne pourrait faire que le fraudeur rembourse sa victime.
Stéphane Levasseur, vous êtes lieutenant détective à l'unité de la prévention des fraudes au service de police de la Ville de Québec. Avez-vous des fois l'impression que vous avez des déformations professionnelles dans votre vie au quotidien? Puis j'explique ma question. Dans le dossier de l'ex-juge de Lille, il y a de ça plusieurs années, il y avait un spécialiste des gouttelettes de sang qui était arrivé dans le dossier. Puis j'avais parlé avec un monsieur qui faisait le même travail, mais à l'Université de Montréal. Puis il disait que même quand il faisait sa vaisselle, il regardait les gouttes d'eau sur le comptoir. Puis moi, ça m'avait fait rire, ça avait été extrêmement marquant, ça, cette entrevue-là avec ce monsieur-là qui était un spécialiste des gouttelettes. Dans votre vie au quotidien, est-ce que c'est dur de faire confiance?
Bien, c'est pas dur de faire confiance. Oui, il faut faire confiance. Les gens sont... La majorité des gens sont honnêtes, là. C'est pas tout le monde qui est malhonnête. Mais quand je reçois un courriel, quand je reçois un texto, quand je reçois un appel, c'est sûr que je me pose toujours la question, c'est quoi à l'arrière de tout ça?
Parce qu'un enquêteur aux fraudes qui se fait frauder, ça doit être un peu honteux.
Effectivement. Bon, on va porter plainte.
Oui, oui, vous allez porter plainte. Mais il y a une petite déformation professionnelle au niveau de la confiance. Des fois, quelqu'un vous appelle, vous voulez l'identifier rapidement.
Ben oui, on va poser des questions. C'est sûr qu'on est allumé, mais des fois, même moi, le premier, j'ai eu un courriel, puis sans trop savoir, j'ai cliqué dessus, mais j'aurais pas dû cliquer sur le courriel. Donc,
mais ils nous trouvent comment, ces fraudeurs-là?
Il y a plusieurs façons.
Quand je vais avoir, mon horoscope sur Facebook, je remplis, je mets mon vrai nom, ma date de naissance, puis...
Effectivement, ils font l'ingénierie sociale qu'on appelle. Donc, quand vous répondez à des sondages sur Facebook, quel est mon premier véhicule que j'ai eu dans ma vie? Mais c'est des questions de sécurité des institutions bancaires.
Qui peuvent être des mots de passe.
Qui peuvent être des mots de passe. Donc, quand vous allez sur ces sites-là, puis là, vous dites, ah, c'est drôle, je vais marquer mon premier véhicule, bien, vous venez donner ce site-là. Peut être à l'arrière de tout ça, peut être un fraudeur, que lui ramasse de l'information sur les gens. Donc, les réseaux sociaux qui sont ouverts, ils vont ramasser de l'information dessus. Les concours, vous recevez. Moi, j'ai un concours que ça fait 6 mois, je reçois d'une institution, d'un magasin connu. Puis je suis le dernier, là. Il reste quelques jours pour le concours, puis je dois rentrer toutes mes informations. On me demande mon adresse, mon nom, mon courriel, ma date de naissance, mon numéro de téléphone. Mais ça fait 6 mois que je reçois le même courriel que le concours devrait finir dans 2 ans, donc dans deux jours. Donc, c'est ça, c'est un courriel frauduleux. Donc, quand on répond à ces courriels-là, ben, on donne nos informations aux fraudeurs qui vont pouvoir les utiliser plus tard.
Je vous pose une question bien personnelle. Quand vous allez faire un achat dans un commerce, puis il vous demande votre numéro de téléphone ou il vous demande votre courriel.
Bien,
le donnez-vous?
Oui, ça se peut que je le donne. Je le donne pareil, je suis comme tout le monde, on vit comme tout le monde, on donne notre numéro de téléphone.
Parce que, tu sais, ça m'a pris un certain temps avant de loader qu'effectivement, tu sais, il y a certains commerces qui peuvent être mal intentionnés puis revendre ces coordonnées-là. Tu sais, pour eux, c'est banal, c'est des numéros de téléphone, mais pour nous, c'est des textos qu'on reçoit de gens qui sont peut-être mal intentionnés. C'est de la publicité qui est non sollicitée. Quand c'est de la publicité, bon, ça s'appelle juste la vie, c'est pas grave, mais quand c'est des gens qui communiquent avec nous parce qu'ils ont réussi à nous trouver, parce qu'on a été vendu sur une liste, c'est fâchant, ça. Peut-être de ne jamais donner son numéro de cellulaire dans un commerce, c'est une bonne idée. Puis pour des gens qui sont peut-être pas de confiance, qu'on connaît pas, ne pas donner notre courriel non plus, ça pourrait peut-être éviter bien des soucis. Hein.
Effectivement, ça appartient à chacun de nous de décider si on donne nos courriels ou nos données, mais nos informations personnelles, on devrait les garder pour nous.
Les gars et les filles au SPVM, c'est des gens, au SPVQ, pardon, c'est des gens qui sont qui aiment s'entendre parler de la police, puis surtout quand c'est positif, je pense. Il y en a certains là-dedans qui rêvent d'être enquêteurs. C'est quoi les bonnes qualités d'un enquêteur?
Bien, bonne qualité d'un enquêteur, c'est quelqu'un qui va être curieux, quelqu'un qui va être empathique. Quelqu'un qui va, surtout au niveau de la fraude, c'est quelqu'un de rigoureux. Il faut qu'il soit rigoureux dans son travail. Mais tous les enquêteurs devraient sont rigoureux dans leur travail. Donc, une personne curieuse, quelqu'un rigoureux, quelqu'un pour la fraude qui est alerte sur les nouvelles technologies, les nouveaux stratagèmes également.
Ça fait plus de 30 ans que vous êtes policier. Bon, vous avez commencé jeune, je pense que vous avez commencé à 7-8 ans, c'est ça? Est-ce que vous êtes encore toujours aussi passionné de votre métier?
J'ai toujours la passion.
Ouais.
Je vois pas l'heure de la retraite encore.
Non. Mais vous êtes encore très jeune, puis tu sais, j'ai pas de conseils à vous donner, mais moi, mes chums qui ont fait l'armée, puis des chums aussi qui ont été dans la police, dès les premiers mois de leur retraite, ils cherchaient d'autres choses à faire. Puis des fois, ça venait pas d'eux autres, ça venait de les madames à la maison en disant, là, arrête de tourner dans la maison, puis trouve tout de quoi faire.
Effectivement, c'est ce que ma blonde me dit quand je suis trop longtemps en vacances.
Ben ouais, c'est ça. C'est quoi la différence entre la vraie vie d'un policier enquêteur, puis ce qu'on peut voir au cinéma quand les gens font des enquêtes?
Ah, c'est complètement différent. Ouais. Au cinéma...
À chaque jour, vous, c'est pas un épisode que vous tournez.
Là. Non, non, non. Puis le dossier se règle pas en une demi-heure, là. Donc, les enquêtes peuvent prendre du temps. Ça peut prendre... Des fois, une enquête de fraude peut prendre jusqu'à 2 ans.
Ouais.
Donc, c'est long. C'est beaucoup d'analyse. C'est beaucoup de rédaction. Donc, c'est pas comme dans les films. On n'a pas l'information en dedans de 5 minutes.
Ouais. Parce que la rédaction, ça peut être très banal là, pour le commun des mortels, mais en même temps, ça va être des dossiers qui vont probablement finir en cours. Donc, l'importance d'avoir que tout soit factuel avec des dates très précises, puis qu'on manque absolument à rien pour que le procureur de la couronne puisse avoir toute l'information nécessaire.
Effectivement, parce que les dossiers qu'on soumet, on soumet un écrit, donc il faut que ça soit très bien synthétisé,
ouais,
très bien vulgarisé pour que le procureur puisse comprendre le dossier puis porter des accusations.
C'est quelque chose qui prend énormément de temps, ça, dans votre travail, des dossiers de cour comme ça, vous devez vous déplacer pour témoigner?
Oui, ça prend un certain temps, effectivement. Bien, ça fait partie du travail, donc ça fait partie de la continuité de notre dossier, d'aller à la cour puis de que la personne soit sentencée. Donc, ça fait partie de notre travail.
OK. Puis, dernière question avant de vous laisser partir, M. Levasseur. Comment on fait pour être à jour au niveau des fraudes? Parce que je lis pas mal mon actualité à tous les jours, incluant le samedi puis le dimanche. Très alerte pour ce qui est des nouvelles fraudes. Tu sais, vous l'avez dit tout à l'heure, il y a des fraudes qui reviennent régulièrement, mais d'autres, il y a des modus operandi. Tu dis, oh boy, c'est la première fois que je vois celle-ci arriver. Ça doit être assez complexe. Vous devez voir ce qui s'en vient dans les prochaines années. C'est, est-ce que c'est des fraudes qui partent des États-Unis? Est-ce que c'est des fraudes qui partent du continent africain ou encore de l'Europe, Europe de l'Est? Ça doit être assez compliqué de se tenir à jour.
Bien, oui, c'est compliqué, mais en même temps, le service de police de la Ville de Québec, on fait partie de tables de concertation. Donc, toutes les deux semaines, tous les lieutenants de la province, on se réunit. Des bureaux de fraude, et on va se parler des nouveaux stratagèmes, on va se parler des nouveaux dossiers, des dossiers qu'on a, les suspects qu'on a. Donc, on se réunit toutes les deux semaines. On fait partie d'une table nationale qui est également tous les plus gros corps de police du Canada. On se réunit pour se parler. On est sur des tables avec l'Association des banques du Canada, avec l'AMF. Donc, on se parle, on a beaucoup de collaborateurs qu'on parle, on se parle des nouveaux stratagèmes, puis on se tient à jour sur les nouvelles façons de faire.
Donc, l'information se transmet.
Oui.
Advenant le cas où on pense avoir été victime de fraude et on veut se plaindre à la police, est-ce qu'on fait le 911 ou il y a un numéro spécifique?
C'est le 911. Vous appelez au 911, on va vous rediriger pour soit un patrouilleur qui va vous rencontrer ou une prise de plainte par téléphone. Et c'est de ne pas hésiter, vraiment de ne pas avoir honte, de ne pas hésiter d'appeler, de porter plainte.
Merci de vous être rendu disponible ce midi. On sait que vous avez un horaire très chargé, puis c'est un plaisir de vous avoir.
Merci.
Merci beaucoup. Salutations au service de police de la Ville de Québec. Merci d'être là. Stéphane Levasseur est lieutenant détective à l'unité de la prévention des fraudes. On fait une courte pause et on vient.